Variation.
Variation.
Poésie, conte des bouches, politique, conte des bouches, de la poésie, conte des bouches, politique.
Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie, conte des bouches.
Poésie, conte des bouches, politique, conte des
bouches. Politique, conte des bouches. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetées. Que votre tension, par la main de l'archer, soit pour la joie. Parmi les hommes politiques qui ont marqué les premiers pas de la Troisième République, Jules Ferry est resté dans les mémoires sous les traits du père fondateur de notre système éducatif. La réalité est beaucoup plus nuancée et davantage conforme peut-être à ce portrait signé Louis le Grand. Nous croyons que Ferry est avant tout un homme d'ordre et que son action pédagogique s'inscrit dans une perspective délibérément conservatrice. S'il a œuvré pour le prolétariat, ce fut avant tout par souci de discipline collective pour améliorer le fonctionnement de l'organisme social, en un mot et conformément à l'aspiration positiviste, pour mettre fin à la Révolution. Maire de Paris au moment où éclate la Commune, accusé de cacher des stocks de nourriture, Ferry Famine, comme le surnomment les communards, doit s'échapper pour ne pas être livré aux Parisiens insurgés et affamés. De cet épisode, il acquiert la conviction que le peuple doit être instruit pour éviter les flambées révolutionnaires. Son école devra clore l'ère des révolutions. Il redoute surtout que le prolétariat tente de s'éduquer lui-même. Petit aparté, à Paris, dès 1860, 87% des ouvriers savent lire et écrire. Dans les écoles confessionnelles, écrit-il, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. On y exalte l'Ancien Régime et les anciennes structures sociales. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent, ouvertes aux fils et filles d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 28 mai 1871, autrement dit la Commune de Paris. Et il est vrai que sur cette question scolaire, comme sur tant d'autres, les hommes et les femmes de la commune s'étaient lancés à l'assaut du ciel. Il est nécessaire que l'enfant passe insensiblement de l'école à l'atelier, devienne en même temps capable de gagner sa vie et apte au travail intellectuel. Il faut que chaque ouvrier, chaque homme occupé à un travail physique, puisse écrire un livre avec sentiment et talent, sans quitter son établi, écrivait alors Henri Bélanger dans l'édition du 7 mai 1871 du Vengeur. Ce n'est hélas pas ce projet éducatif que l'école de la République choisira de suivre, préférant un système à deux entrées, hermétiquement cloisonné. L'école élémentaire gratuite pour le peuple. Les collèges et les lycées payants, donc réservés aux riches, et ou à un nombre infime de méritants.
En réalité, je ne concevais pas de développement harmonieux d'un élève en particulier, en dehors du développement harmonique du groupe. En un temps où l'esprit de concurrence et d'individualisme semble s'immiscer dans tous nos rapports sociaux, voire dans les établissements scolaires, il m'a semblé opportun de rendre compte des effets d'un fonctionnement qui, à l'opposé d'un système compétitif, avait l'objectif de lier l'intérêt particulier au général. La semaine débutait par un conseil d'enfants, géré par eux-mêmes. À tour de rôle, chaque élève occupait le poste de président de séance, puis celui de secrétaire. Le premier assumait la tâche de distribuer la parole afin de garantir le bon déroulement du débat, et le second se chargeait de noter les points à l'ordre du jour indiqués par ses camarades au tableau. Il devait également résumer les interventions et faire un bilan de la réunion à partir d'une grille d'observation. C'était l'occasion de témoigner d'expériences vécues et de proposer des projets à réaliser en commun. N'importe quel sujet pouvait servir de prétexte à s'exprimer, mais il était admis qu'un propos personnel devait pouvoir susciter l'intérêt de tous. Les élèves avaient à élaborer des exposés complexes qui non seulement devaient correspondre à leur niveau, mais qui étaient également censés intéresser l'ensemble des élèves d'une classe dont les âges, je le rappelle, variaient de 5 à 11 ans. Aussi prévoyait-il des explications de mots difficiles pour les plus jeunes, des schémas avec des légendes. Pour vérifier le niveau de compréhension de leur auditoire, ils avaient pris l'habitude de distribuer, à la fin de leur prestation, des questionnaires aux plus grands et des devinettes ou des coloriages aux plus petits. Ils ont su adapter leur communication en fonction de l'écoute qu'ils recevaient, en expérimentant par eux-mêmes les effets de leurs actions et en tirant les conclusions nécessaires pour améliorer leur exposé suivant. Transmettre à un public hétérogène n'était pas un problème pour eux. Tout naturellement, les élèves ont imité ma façon de pratiquer avec plusieurs niveaux. 15 jours avant de terminer l'année scolaire, période qui correspondait aussi à la fin de ma carrière, je les prévins. La dernière semaine, j'arriverai avec mon cartable vide. Puisque vous avez l'habitude d'exposer aux autres ce que vous savez, je vous demande de préparer chacun une leçon dans la discipline de votre choix. Vous ferez cours à ma place. En général, les jours qui précèdent les grandes vacances, les enfants apportent des jeux et passent une partie de la journée dans la cour de récréation. Au palier, du plus petit au plus grand, les élèves ont travaillé pour jouer à la maîtresse avec le plus grand sérieux, puisque c'était pour de vrai. Ils se sont répartis les matières afin qu'elles soient toutes représentées, leçons de français, de maths, d'histoire, de géographie, d'éducation physique, de dessin. Les plus jeunes du cours préparatoire nous ont fait chanter en chorale. Et l'un d'entre eux nous a enseigné des mouvements de yoga qu'il avait appris avec sa maman. C'est ainsi que ces élèves m'ont appris à devenir inutiles. Pour une enseignante, cela peut paraître un comble, et pourtant... Le jour où ils m'ont démontré qu'ils étaient en capacité d'apprendre seuls et les uns avec les autres, j'ai réalisé que j'avais atteint le but de ma mission. Ces enfants m'ont offert le plus beau cadeau de départ à la retraite en me démontrant que j'avais eu raison de leur avoir fait confiance.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vient.
Ce qui circule, c'est le savoir. Nul troc, nul rapport d'argent ou de service dans les échanges. C'est le désir et le besoin qu'en ont les offreurs et demandeurs qui déterminent la valeur du savoir pour chacun. Je peux égale je suis capable. Ce qui renvoie à la capacité, la faculté, l'aptitude. Des femmes expriment le sentiment de sortir de l'incapacité, de l'incompétence, de l'inaptitude ou du moins d'un enfermement dans une représentation sociale subie d'incapacité, incompétence et inaptitude. Je peux égale c'est possible et ça m'est possible à moi. Ce qui renvoie à la possibilité, mais aussi à la liberté, au droit, à la permission, à l'autorisation, à la facilitation. Versus impossibilité, interdiction, inhibition, obstacle, être accablé. Elles découvrent que personnellement et avec d'autres, elles peuvent, c'est possible. Je peux égale j'en ai la puissance, ce qui renvoie à la force, l'énergie, le courage, le désir. Versus impuissance, faiblesse, cynisme. On peut admirer à quel point la dynamique de coopération et de réciprocité alimente le courage et le désir. Je peux, égale je le décide, c'est moi qui décide. Ce qui renvoie à la décision, à la responsabilité, à la maîtrise, à l'autonomie, au choix, au pouvoir de, c'est-à-dire un verbe qui exige d'être suivi d'un autre verbe, comme un acte constitué d'une chaîne d'actions intégrant le pouvoir d'imaginer, d'exprimer, de délibérer, de négocier, de décider, d'agir, d'évaluer, de réajuster. Quel versus ? Domination, exploitation, flagomerie, complaisance, soumission, peur, humiliation, fatalisme, servitude, dépendance, irresponsabilité, et donc pouvoir sur les autres plus que sur soi. Ces femmes peuvent même décider, non pas seulement contre leur mari ou leur communauté, mais autrement que leur histoire sociale et culturelle les a programmées à la base.
We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking the wall.
Imagine un instant que l'obligation scolaire tombe et que les parents n'aient aucun moyen de faire pression sur leur rejeton. Pense à tes copains et tes copines. Quel serait le taux de l'absentéisme en classe ? Dis un chiffre. Les enfants vont à l'école parce qu'on les y oblige. C'est la première chose à regarder en face. Mais le pire, c'est qu'on nous oblige, adultes, à ne pas y aller. Si elle n'était jamais obligatoire, une école, qu'il resterait à imaginer, pourrait intéresser l'un ou l'autre à un moment de sa vie. Et qu'on ne me parle pas de formation permanente. Dans l'état actuel des choses, on continue à bien séparer les loisirs, les études, le travail, et on ne pourra jamais être en unité de soi tant qu'on nous découpera la vie de cette manière. On a tout lieu de penser que cette formation permanente devient petit à petit obligatoire et qu'elle sert bien d'autres desseins que notre accomplissement personnel. Les signataires du manifeste de Cuernavaca ont vu avec une prodigieuse acuité ce qui nous attend et s'élèvent contre une scolarisation sournoise qui ne fera qu'indéfiniment renforcer le pouvoir de ceux dont le savoir est certifié par l'État et estampillé. Il propose que chacun bénéficie d'un temps égal, de ressources financières égales et d'une liberté égale pour apprendre. Car chacun et chacune doit avoir accès à toutes sortes de connaissances. Pour cela, bien entendu, le plus urgent à faire est de rendre illégaux les diplômes. Ivan Illich, avec les signatures du manifeste, insiste beaucoup là-dessus. Il faut empêcher toute discrimination fondée sur la scolarité. Il est absurde et injuste de juger, en bien et en mal, un homme sur son passé scolaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette pratique qui consiste à se renseigner sur tel ou tel pour savoir s'il s'est montré dans son jeune âge capable de répéter ce qu'on lui demandait de répéter ? Mais ça rime à quoi ? Il faut supprimer les diplômes, comme le casier judiciaire, et pour les mêmes raisons. N'importe qui pourrait accéder aux facultés et à tout ce qui devrait fort à propos les remplacer. Craindrait-on, par extraordinaire, qu'il n'y ait trop de monde ? Si l'on supprimait les diplômes, gageons qu'on ne se bousculerait pas aux portes. Tout le monde sait que les diplômes n'ont ordinairement aucun rapport, même lointain, avec la qualification qu'on demande pour un emploi. Pour un travail réclamant telle ou telle compétence, le désir de réussir et une période d'essai ne seraient-ils pas des gages plus sérieux que le casier scolaire ? Nous connaissons tous des gens qui seraient profondément heureux de pouvoir en former d'autres autour d'eux à ce qu'ils aiment faire. Mais ne comprend-on pas que cela nous est rendu impossible dans la très exacte mesure où l'on nous oblige à vivre l'enseignement sur un mode scolaire et uniquement ? Encore une fois, en te gardant de l'école, c'est moi aussi que je défends contre le rôle qu'on voudrait me forcer à jouer, mais aussi tous ceux, grands et petits, qui ont envie de nous apprendre quelque chose à qui je reconnais cette liberté-là. L'obligation scolaire n'est pas, bien sûr, l'obligation d'apprendre, mais d'apprendre à l'école. Pourquoi ce temps, de 6 à 16 ans ? Et pourquoi cet espace divisé en des classes et une cour ? De 6 à 16 ans, c'est clair, et personne ne s'en cache, parce que l'esprit de l'enfant est malléable. C'est toujours cette idée de la cire molle qu'il faut marquer d'un sceau. Les diplômes font de l'esprit scellé une lettre qu'on peut envoyer dès lors à son employeur destinataire. Quant au lieu, qui vit en classe vit nécessairement dans un lieu commun. Edmond Gilliard dit bien d'autres belles évidences. Lieu commun de la banalisation et d'un dispositif de contrôle que Michel Foucault a décrit avec perspicacité. Avant même de former l'esprit, on forme le corps qui doit se lever, s'asseoir, manger, chier, pisser, dormir aux heures convenues.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid,
manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac,
faire mon service militaire,
traverser la Manche au bouet,
chatouiller une panthère,
faire pipi sur un policier.
Oh. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
devenir magicien pour me faire disparaître,
prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète,
prendre en otage ma petite sœur,
terminer mes choux Bruxelles,
manger des crayons de couleur
pour vomir un arc-en-ciel.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école,
moi j'irai jusqu'à
sans armes contre un gladiateur,
je serai prête à me battre,
imiter les cascadeurs,
respirer, finir dans le plâtre,
avaler de sang limaces pour effrayer les instits,
faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école,
je le ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
On m'a tant forcé à manger, à apprendre, à me méfier de telle ou telle situation, à être comme ci ou comme ça. J'ai cru bon, pour m'adapter et survivre, de me forcer à faire des choses qu'on ne me demandait pas. Et aujourd'hui, j'ai du mal à savoir qui je suis, ce que j'aime ou non, ce qui est dangereux ou pas. Je fais tant de choses que je n'aime pas, qui ne me correspondent pas. Il y a tant de choses que je ne fais pas, par peur. Petit à petit, je me découvre, je vais vers ce qui me plaît et lâche ce qui ne me plaît pas. Je lâche aussi mes craintes. Ce n'est pas chose facile et je suis beaucoup aidée par mes enfants, juste en les voyant vivre et par nos relations, leurs demandes, leurs envies, leurs réactions. Je lâche aussi en essayant de ne pas leur transmettre ces obligations, ces peurs qu'on m'a transmises. Je réalise souvent comme c'est incroyable tout ce qui est ancré en moi de normes, schémas culturels et sociaux, comme c'est ancré très en profondeur et comme il est dur de s'en défaire, mais comme c'est chouette de s'en défaire. Petit à petit, je désapprends. C'est pour ça aussi que j'ai voulu la non-scolarisation. J'ai voulu le respect de leur rythme, de ce qu'ils sont. Je crois que ça peut être une force plus tard que de savoir que l'on peut tester des choses, découvrir ce qu'on aime, changer, tomber et se relever, recommencer encore et encore avant d'arriver à ce qu'on veut, questionner. Trouver les moyens qui nous conviennent face à une difficulté, savoir puiser dans ses ressources, demander de l'aide. Être à l'écoute de soi, de ce qui se présente à nous, parce qu'on nous a laissé vivre. Pour moi, quand on sait tout ça, on peut faire face à tout ce qui se présente dans notre vie, que ce soit une difficulté ou la réalisation de nos rêves. En résumé, je souhaite que mes enfants connaissent et utilisent leurs ressources personnelles. C'est ce que je pense que la non-sco peut leur apporter de plus précieux.
Pour moi c'est pire que le bagne, et lorsqu'il eut inventé, ce sacré Charlemagne aurait dû rester couché.
Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter les cas.
En fait, quand on a commencé notre vie de famille, on va dire, on avait fait le choix de ne pas forcément être immergé dans la société classique. Travail, maison. On avait fait en sorte de se créer une activité à domicile, de vivre proche de la nature et être à l'écoute de ce qu'on voulait vraiment faire, nous. Quand Robin est né, on a découvert une forme de parentage, à l'écoute des besoins. On avait confiance dans notre enfant pour être ce qu'il devait être, sans qu'on ait besoin de le dresser, de lui apprendre. Ta-ta-ta. Et le fait de ne pas aller à l'école, c'était une continuité de ce genre d'idée. Et on voulait aussi vivre ensemble, quoi, je sais pas comment dire, être autonome, voilà. Et ça a coulé de source. En plus, on a vu notre enfant grandir, apprendre à parler, à marcher, à découvrir plein de choses dans la vie. Et il nous semblait pas que pour certaines choses, il fallait aller à l'école pour les apprendre, en fait. C'est la vie, voilà. Il grandissait dans la vie. Il apprenait la vie. Et la lecture, l'écriture, compter, dessiner, chanter, tout ça, ça fait partie de la vie. Donc il n'y avait pas de raison que pour certaines choses, il aille à l'école. En tout cas, on n'en a jamais ressenti le besoin. C'est ça. Au début, on disait ça aux gens. On ne trouve pas de bonne raison de l'envoyer à l'école. On n'en a toujours pas trouvé, en fait.
On ne peut pas y aller, on préfère rester couché. Faut les mains, faut de la pâte, la maîtresse en maille et pas. On ne peut pas y aller, on préfère rester couché. Les guerriers, au feu, la maîtresse au milieu.
Habiter dans les toilettes, provoquer un ours en duel.
Avaler une clarinette, ou repeindre la tour Eiffel.
Boire du coca périmé pour attraper des boutons.
Manger du beurre toute la journée,
finir aussi gros qu'un camion.
Chanter du Lori en latin,
faire une sieste de 6 mois.
Manger la pâté du chien, apprendre l'annuaire en chinois.
Ne respirer qu'une fois sur deux,
me laver à l'eau de Javel.
Ne plus jamais cligner des yeux,
torturer le Père Noël.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, jusqu'à
pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusque là.
L'instruction libre implique que je suis mon propre maître d'œuvre, que cette évolution devient la mienne propre, que mon parcours est personnel, que je suis libre des moyens, des méthodes, du rythme, des fins, des aides auxquelles je me réfère, des points d'appui que je me choisis. Je m'instruis, je me construis, si je veux. Il n'existe aucune raison, a priori, d'apprendre ou de s'instruire, ou de ne pas le faire, et quel que soit l'âge. Mais que ce soit à grande échelle, ou pour des enjeux plus personnels, certains ont tout intérêt à orienter, si ce n'est à forcer notre choix et notre parcours, afin d'adapter les individus que nous sommes à des fins qui ne nous concernent pas toujours, loin s'en faut, ou du moins, qui ne nous auraient peut-être pas concernés, si seulement.
Nous traçons notre chemin sans rendez-vous et nos jours se colorent au rythme de nos envies. Nous sommes riches de relations qui nous sont chères. Quiconque y pose un regard dénué de tendresse nous blesse. Nous aimons les horizons dégagés. On y respire tellement mieux. Nous sommes de celles et ceux que l'école ne concerne pas. Nous n'accordons à personne le droit d'évaluer nos choix, de vouloir les corriger ou les référer à une norme. Nous sommes notre propre réponse. Qui prétend y poser des balises, nous indiquer la route à suivre?
Puis l'enfance, on nous balance. Puis l'enfance, on nous balance. Puis l'enfance, on nous balance. Des choses qui rendent fous, inutiles, style, fille dans le moule. Excuse, mais je m'en fous. Va à l'école, tais-toi, la garçon, détingue et tapant. Faut des diplômes et de l'argent, sinon la galère t'attend. Y'a des horaires pour s'amuser, d'autres pour le sérieux. Tout est imposé, alors puis toi, tu choisis rien. Veut tout le monde ou pas? Tu te rends compte ou pas? Qu'on nous traite d'une façon, si tu refuses ces styles.
Oh, mais cela raconte quoi?
Des petits, on nous met des barrières mentales en place.
La spontanéité juvénile et la pureté sans crasse.
C'est formatage, emballage pour la vie d'adulte. Tes petits en cours, la réceptivité, tu sais que ça dure. L'éternel non-stop, 36 heures par semaine où tu la fermes et tu gobes jusqu'à la vie active. Bref, le même protocole qu'on baissant. Décœurés par la réflexion, deviennent de bons moutons manipulables, passifs devant leur télévision, prêts à tout croire. Bon auditoire pour la propagation de leur grande foire politique. C'est le trou noir pour ma génération, la même histoire. Vu que c'est le dollar que les gens vénèrent à fond. Enseignement obligatoire, format depuis qu'on est en système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte. Même format pour tout le monde, l'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case, t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adulte. Même format pour tout le monde, l'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case, t'empêche de penser par toi-même. Rentre dans la classe, prends place, le cul sur une chaise, pas bouger, telle une statue de glace. Si tu veux causer, tu lèves le doigt. Et si t'es pas d'accord, soit tu punis, soit tu prends sur toi. Mais si t'as plus droit, alors faut que tu apprennes leur leçon pour lâcher les tiennes. Car c'est du par cœur, robotisation, doucement fait enfiler tes chaînes. Clic, clic, pour que tu sois un bon pion plus tard. On t'assujette, rentre dans la machine, façon soit tu rentres, soit tu pars. Et si tu pars, la galère t'attrape et t'inquiète, ils sont malins, ils ont pensé à tous ces bâtards. Classement, rangement, partout. Dernier rang d'ailleurs, paraît qu'on n'y voit rien. Erreur, c'est dans le fond qu'on voit tout. Valeur, parfois bafoué sans naturel. L'école, entrée d'une avenue tout tracée. Où rares et dangereux sont les ruelles. Institutions, qui t'apprend dès le départ que dans ce monde, le verbe être ne peut se conjuguer sans avoir. Système scolaire mal foutu à l'allure. D'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe. T'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure. D'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe. T'empêche de penser par toi-même. Tu te rends compte que l'éducation ne considère les gamins que comme de futurs adultes, de futurs outils babyloniens. On leur fait apprendre non pas pour leur enrichissement personnel, mais pour qu'ils déteignent de la bonne couleur. Rentre dans les rangs, on mure ton cerveau dans cette classe. Chacun pour soi, on t'apprend à te battre pour la première place. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu souhaites, tout le monde doit avoir le même bagage qui s'emboîte avec le système. Et si tu sors du circuit, c'est le monde marginal. Galère, toc, strict, prison, police, bref, rien génial. C'est ton choix petit, mais la rue n'est pas la meilleure école de la vie, école du voyage. Pour moi, la meilleure école, t'es petit. Ne ferme pas ton esprit, vois les choses par toi-même. N'écoute pas tout ce qu'on dit dans tes livres, ce n'est qu'une parcelle de la vérité. Ce qu'on veut bien que tu saches, ne t'arrête pas à leurs écrits, évalue, sois bien plus sage. Système scolaire mal foutu à l'allure, d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure, d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Les petits, dans ce monde, l'école c'est important, mais ne ferme pas ton esprit pour autant. Garde ton esprit critique, analyse et vois les choses par toi-même. Ne tombe pas dans leur piège. Réfléchis et garde en tête que leur enseignement est formaté, donc que tout n'est pas dit. Et laisse pas te modeler. Comprends par toi-même, enrichis-toi et réfléchis toujours par toi-même.
Ce matin, à l'école du berceau, les élèves de CE2 vont en classe. Une scène des plus banales, pas si sûre. Car depuis quelques mois, dans les cartables, les cahiers ont disparu. Ils ont laissé la place aux tablettes tactiles.
Can you take your iPads, please?
La promesse d'une école meilleure grâce à la technologie. Une promesse à coût de millions qui aiguise l'appétit des grandes multinationales de la high-tech. Tableaux interactifs, tablettes tactiles, livres numérisés. Ces nouveautés représentent à l'échelle de la planète un marché colossal. Environ 100 milliards d'euros. La France entame aujourd'hui son virage numérique. Il va donc falloir acheter du matériel informatique. Tablettes, ordinateurs, tableaux interactifs, mais aussi des logiciels éducatifs quasiment inexistants dans l'Hexagone. Pour les industriels, ces logiciels sont les meilleurs moyens d'attirer les clients dans leur filet. Une fois achetés, vous devenez dépendant de leur système informatique. Dans la plupart des cas, votre logiciel Mac n'est utilisable que par un ordinateur ou une tablette Mac. Idem pour les PC. Thierry de Vulpilière, responsable éducation chez Microsoft France.
On est chez Microsoft. Notre sujet, c'est aider la passion pour l'éducation des enseignants et des élèves. 55% des enfants français s'ennuient à l'école. C'est dommage. Eh bien, c'est parce qu'on va déplacer la façon d'enseigner et on va impliquer davantage les élèves, que ces outils viennent naturellement s'insérer dans ce nouveau mode d'apprentissage. Ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, l'ensemble des élèves puissent bénéficier du numérique. Moi, je serais enchanté qu'il y ait 11 millions de tablettes entre les mains de chaque élève.
Arrivé au sommet de l'État, François Hollande fait du numérique à l'école un des piliers de sa réforme scolaire.
L'école du futur, ça commence par les nouvelles technologies. Je ne veux pas céder à l'illusion du tout numérique. Mais il est clair que cette nouvelle donne modifie le rôle de l'enseignant, transforme les savoirs, et affectent les pédagogies. Je demande au gouvernement de prendre rapidement les initiatives pour réussir à relever ce beau défi du numérique.
C'est un peu Noël avant l'heure. 130 collégiens de Corrèze reçoivent ce soir un ordinateur portable puissant.
En 2009, François Hollande, alors président du Conseil général, avait doté chaque collégien de Corrèze d'un ordinateur.
Les départements seront équipés.
C'est bien que les élèves puissent être satisfaits, joyeux, d'avoir un matériel qui va leur permettre de travailler.
2 ans plus tard, il distribue dans tous les collèges de Corrèze la dernière innovation numérique, la tablette tactile. Une première en France.
J'ai peur qu'il y ait un repli sur soi de l'enfant, où le rapport au savoir ne se ferait pas par la communication avec les autres, mais simplement par la communication à travers un support.
Alors que l'école française entre dans l'ère du numérique, un pays a 10 longueurs d'avance. L'Amérique, où 60% des élèves étudient déjà avec l'informatique.
J'étais convaincu qu'en donnant aux élèves un ordinateur pour travailler et en réduisant cette fracture numérique, cela réduirait aussi l'inégalité des chances.
Le logiciel n'est-il pas en train de vous remplacer ?
Ah non, pas du tout. En réalité, ça me rend meilleur. C'est vrai que le logiciel apprend des choses aux élèves, mais d'une façon qui me permet, moi, l'enseignante, de me concentrer sur leurs vrais besoins. Et ça, ça n'a pas de prix. Je suis devenue dépendante de ce logiciel. Si demain, on me le retirait, je serais très, très contrariée.
Le numérique peut-il sauver une école qui va de plus en plus mal ? Sur 12 millions d'élèves, 25% sont en situation d'échec scolaire. Parmi eux, 140 000 quittent l'école sans diplôme chaque année. Un échec pour un ministère doté du plus gros budget de l'État, 68 milliards d'euros en 2014, 8 fois plus que celui de la justice.
Raconte-nous une histoire, même deux histoires.
C'est un
drôle de
Brûle ton école.
Voilà, c'est une histoire qui se passe dans une école. Une école tout à fait ordinaire. Avec des salles de classe, une cour de récréation, un préau et tout le tralala. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une école tout à fait ordinaire et n'y êtes jamais allés, je dois vous expliquer 2 ou 3 choses.
D'abord,
pour y aller, il faut absolument se lever très tôt le matin. C'est pour ça que le matin, on fait sonner un réveil. Un réveil, ça fait un bruit insupportable, ça hurle.
On peut pas rester au lit ce matin, car on est obligé de se lever pour aller à l'école.
Alors, pour toutes celles et tous ceux qui aiment bien dormir le matin, ou simplement rester au lit à se raconter les rêves de la nuit, eh bien, le hurlement du réveil est une vraie torture. Bon, s'il y avait école qu'un seul jour par an, à la rigueur, ça irait. On se dirait, bon, d'accord, c'est le jour de l'école. Et on ferait un effort. Mais c'est tous les jours, le jour de l'école. C'est tous les jours qu'il faut faire un effort. C'est tous les jours que le réveil hurle à l'oreille. Tous les jours qu'il faut se lever, même si on n'a pas envie.
On peut pas rester au lit ce matin.
Tous les jours.
On peut pas rester au lit ce matin.
Sauf le dimanche.
Sauf le dimanche.
Le dimanche, on a le droit de rester au lit autant qu'on veut. Et c'est pour ça que le dimanche, c'est le jour qu'on préfère. En vrai, ça devrait être tous les jours dimanche. Mais non. En fait, le dimanche, c'est que 1 jour sur 7... Tous les autres jours, c'est réveil, c'est debout, c'est
école.
Et c'est pas tout. Parce qu'à la rigueur, d'être obligé de se réveiller très tôt le matin pour aller dans un immense parc à jeux, pour faire tout ce qu'on a envie, ce serait peut-être possible, faut voir. Mais l'école, c'est pas tout à fait un immense parc à jeux où on peut faire tout ce qu'on a envie. Non, pas tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a les récréations, et que théoriquement, pendant les récréations, on peut s'amuser. Enfin, presque. Parce que pendant les récréations, par exemple, on peut pas courir toute nue dans la forêt. Non, ça on peut pas. Parce qu'on n'est même pas dans la forêt. On est dans une cour fermée, le plus souvent recouverte de béton. Fermée. Et on n'a pas le droit de sortir, ni de courir toute nue. Et ça, je comprends vraiment pas pourquoi. Enfin, toujours est-il qu'il y a des surveillants ou des surveillantes qui vérifient qu'on s'échappe pas et qu'on court pas toute nue. Parfois, il y a un arbre et un bac à sable. Ça veut dire qu'on a de la chance. Parce que des fois, il n'y a rien du tout. À part quatre poteaux pour dire que si on veut, on peut jouer au foot. Mais bon, c'est vrai qu'au moins, on est en plein air. Sauf quand il pleut. Où là, on peut même pas jouer à sauter dans les flaques. Parce qu'on doit rester sous le préau. Parce que sous le préau, là, il pleut pas. Enfin, malgré tout ça, c'est quand même la récréation, le meilleur moment de l'école. On serait peut-être d'accord pour y aller tous les jours si c'était tout le temps la récréation, même si on peut pas y faire tout ce qu'on a envie. Mais non, l'école, c'est pas tout le temps la récréation. La récréation, c'est seulement de temps à autre, entre deux sonneries de cloche qui ressemblent à la sonnerie du réveil. Parce que là, c'est pareil, si on a envie de continuer à jouer ou juste de finir une partie de chat perché, eh ben c'est plus possible, il y a la cloche qui hurle.
On peut pas jouer toute la vie, on est obligé d'arrêter pour retourner en classe, maintenant, maintenant, maintenant.
Et alors en classe, c'est incroyable. On peut pas imaginer ce que c'est si on n'y est jamais allé.
C'est dingue tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans une classe.
On n'a pas le droit de sortir, de courir, ni toute nue, ni même habillée.
On n'a pas le droit de sauter partout, de chanter, de danser.
On n'a pas le droit de jouer, même dans le calme.
On n'a pas le droit de crier, ni même de parler à son voisin ou à sa voisine, ni de faire aucun bruit d'aucune sorte.
On n'a pas le droit de dormir. On n'a même pas le droit de rêver ou d'être ailleurs, et même pour aller faire pipi ou caca, il faut demander la permission.
En fait, on a juste le droit de rester assis derrière une table et de copier dans un cahier ce que le maître ou la maîtresse écrit sur un grand tableau noir.
On est obligé de répondre quand on nous pose une question.
On est obligé de comprendre ce qu'on nous dit, ou alors il faut l'apprendre par cœur, sinon on a une mauvaise note. Et ça, c'est le début de très gros problèmes.
On est obligé d'avoir de bonnes notes et sans tricher. Parce que si on triche, par exemple, en copiant sur sa voisine ou son voisin, alors là, les problèmes sont encore plus gros. Et tous ces problèmes peuvent devenir encore mille fois plus gros si on décide de courir toute nue dans la forêt au lieu d'aller dans cet enfer où on a le droit à rien et où on nous oblige au pire. Oh là là. On pourrait penser qu'après un tel calvaire qui dure une journée entière, on est en droit de se reposer. Mais non ! Il y a les devoirs d'école à faire chez soi, les devoirs tous les soirs, pour ne pas oublier que le cauchemar recommence le lendemain. Comme ça, on est toujours obligé de faire autre chose que ce qu'on a envie de faire. Comme ça, on oublie qu'on a vraiment envie de faire et on en vient à accepter tous les jours le hurlement du réveil, d'être enfermé toute la journée, de retourner en classe après la récréation et de faire ses devoirs à la maison et on en vient à trouver ça normal.
Normal.
Heureusement, de temps en temps, il n'y a pas école.
Ah.
C'est jour férié, ou bien c'est les vacances. Les vacances, c'est la vraie vie. Alors, pour pas qu'on puisse en profiter, il y a les colonies de vacances et les devoirs de vacances, avec des cahiers de vacances, pour que même les vacances ressemblent à l'école. Je sais que ça paraît incroyable, mais tout ça existe en vrai. Et si vous me demandez pourquoi on empêche les enfants de profiter de la vie, et pourquoi c'est précisément à l'âge où on veut découvrir le monde qu'on nous enferme, et que tout le reste de notre vie, on devra travailler pour peut-être profiter de nos derniers jours alors qu'on sera trop vieux pour se rappeler ce que ça veut dire profiter de la vie, eh bien si vous me posez une question pareille, j'avoue que je ne saurais pas quoi répondre. Mais venons-en à notre histoire, qui donc se passe dans une école tout à fait ordinaire. Et maintenant, vous savez ce que c'est qu'une école tout à fait ordinaire.
Où vas-tu, petit garçon ? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu ? Jamais.
C'était un jour comme les autres. Des enfants étaient assis devant les tables et recopiaient sur des cahiers ce qu'une maîtresse d'école écrivait sur un grand tableau noir. Jusqu'à là, c'est comme tous les jours. Seulement, ce jour-là, il s'est produit quelque chose de plutôt inhabituel. Car la craie s'est brisée au milieu du tableau. Et la maîtresse est tombée raide, morte, devant toute la classe. On peut penser qu'après un tel incident, il y eut des cris, des appels au secours et des bousculades. Mais ce ne fut pas du tout le cas. Il y eut surtout un grand silence où personne n'a bougé. Après un long moment, on a entendu au dernier rang « On va encore dire que c'est de notre faute !» Il y eut un nouveau silence, puis une autre voix a dit « Je pense qu'avant de faire quoi que ça soit, on devrait en parler ensemble. » Alors, d'un commun accord et sans faire de bruit, tous les enfants ont écarté les tables et se sont assis en cercle au milieu de la classe avec la maîtresse morte au pied du tableau. Un par un, chaque enfant a exprimé son avis sur la situation. Il y en a un qui a dit
« Moi, je vais faire le guet !»
Et il s'est posé à l'entrée de la classe pour surveiller le couloir.
« Le problème, c'est que tout nous accuse !»«
On devrait essayer de disparaître !»«
Mais même si on arrive à s'enfuir par l'escalier de secours, on saura que c'est nous !»«
Oh, et puis on nous retrouvera et on nous jettera aux prisons !»«
Moi, je veux pas aller en prison !»«
On n'a qu'à dire qu'un monstre est venu et qu'il a tué la maîtresse et qu'il s'est envolé par la fenêtre !»«
Personne ne nous croira jamais !»
Même si on dit la vérité, personne ne nous croira jamais.
Il faut faire disparaître le corps.
D'accord, mais comment?
On n'a qu'à le manger.
Berk.
Dans un film, ils les découpent, les corps, en petits morceaux pour les cacher dans le jardin.
Non, mais c'est trop long. Et puis on n'a pas les outils. Et puis si on va demander des outils, on nous demandera, mais c'est pour quoi faire? Et comme il ne faudra pas dire que c'est pour découper la maîtresse en petits morceaux, on ne saura pas quoi répondre alors. On risque de nous soupçonner et après on va dire que c'est nous et on ira en prison.
Je veux pas aller en prison.
Il faut brûler la maîtresse.
Oui, brûlons la maîtresse.
Mais il restera des preuves.
Brûlons les preuves.
Quelles preuves?
Mais tout prouve que c'est nous.
Bah alors, brûlons tout.
Il n'y a aucun témoin. Il n'y avait que nous et la maîtresse dans la classe. Toute l'école saura que c'est nous.
Bah brûlons toute l'école.
Oui, brûlons toute l'école.
Il faut faire vite, j'ai des allumettes dans mon cartable. Si nous allumons plusieurs fois en même temps, nous aurons plus de chances que tout brûle. Ainsi, les enfants ont allumé plusieurs incendies en même temps et le feu s'est rapidement propagé à toute l'école, faisant retentir l'alarme. Tout le monde est sorti sain et sauf dans le calme, en croyant qu'il s'agissait de l'une de ces innombrables fausses alertes. Tout le monde, sauf la maîtresse, qui était morte. Ainsi, on a supposé qu'elle était morte dans l'incendie et personne n'est allé en prison.
Moralité, brûle ton école.
Un autre jour, dans une autre école, le professeur avait demandé à ses élèves ce qu'ils pensaient de leur école, en disant d'abord ce qu'ils aimaient bien et ensuite ce qu'ils n'aimaient pas.
Ce qui est bien dans l'école, c'est qu'on apprend des tas de trucs.
Et puis, on peut se faire des copines et des copains.
Et même pendant la récré, on peut jouer à cache-cache ou à chat-perché ou à saute-mouton ou à la déli-délo ou à la balle aux prisonniers ou à poule-renard-vipère.
Et qu'est-ce que vous n'aimez pas?
Moi, ce que j'aime pas dans l'école, c'est qu'on soit obligé d'y aller. Et puis, il faut se lever le matin et le cartable est très lourd. Et puis, il y a trop de devoirs et trop de trucs à apprendre.
Et il faut rester assis tout le temps et on peut rien se dire pendant les cours.
Ouais, et même, il faut lever le doigt pour aller pisser.
Et on n'a pas le droit de penser différemment.
Ouais, il faut obéir au prof.
Et faire tout ce qu'on nous dit et dire « Oui, monsieur, s'il vous plaît, madame ».
On peut même pas courir dans les couloirs.
Et on doit rester en rang par deux.
Il y a trop de contrôle.
Et moi, j'aime pas les mathématiques.
Et moi, j'aime bien dormir.
Et à la cantine, c'est trop pas bon.
Ah, il y a pas assez d'arbres dans la cour.
Et la déco, elle est trop nulle.
Et puis, il y a des barreaux aux fenêtres.
Et les néons, ils font mal aux yeux.
Et ça pue dans les toilettes.
Et les chaises, elles font mal au dos.
Et les divisions, c'est trop difficile.
Et puis on s'ennuie à mourir.
Et les livres, à lire, mais ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longs.
Et la grammaire, personne n'y comprend rien.
Et l'exception qui doit confirmer la règle.
Et les cancres doivent confirmer les bons élèves.
Et moi, je confirme que c'est débile.
Et moi, j'ai peur d'avoir l'air idiote.
Et moi, j'ai peur de me faire gronder.
Et moi, j'ose pas dire ce que je pense.
Et moi, j'ai tout le temps peur à l'école.
Et les vacances sont beaucoup trop courtes.
Et nous, on est là, enfermés toute la journée, alors qu'il fait beau dehors.
Et on doit apprendre des trucs par cœur, alors que c'est la guerre dans le monde. Et la liste des trucs pas bien ne s'arrêtait pas. Alors le professeur est devenu tout pâle, et puis il a dit pour de vrai...
Bon, eh bien, nous allons faire une expérience. À partir de maintenant, faites tout ce que vous avez envie.
Il y a eu un petit moment, très court, où personne n'a bougé. Et tout d'un coup, il y en a un qui a explosé au dernier rang en criant « Wouh ! Wouh ! Et il est sorti en sautant sur les tables. Alors tous les enfants ont regardé le professeur pour voir si c'était vrai ce qu'il avait dit. Et le professeur les a regardés, l'air de dire
« Eh bien, bah qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y !»
C'est à ce moment-là que tous les enfants ont sauté de joie en hurlant et en chantant et puis sont sortis de l'école pour faire ce qu'ils avaient envie. Il y en avait qui avaient envie d'aller se baigner, d'autres qui voulaient parcourir le monde, d'autres qui voulaient passer du temps à jouer avec leurs amis, d'autres encore qui voulaient simplement sauter partout en poussant des cris bizarres. Et un seul enfant était resté dans la classe. Car il avait envie d'être avec le professeur.
Et voilà, c'est l'anarchie,
dit le professeur. Qu'est-ce que c'est l'anarchie ? Demanda l'enfant.
L'anarchie, c'est si tu veux quand plus rien n'est obligatoire.
Ah, c'est ça ? Alors moi j'aime bien l'anarchie.
Eh bien, il se trouve que moi aussi,
fit le professeur et il souriait. Mais ils ne sont pas restés longtemps à discuter car l'alarme incendie les obligea à quitter l'école précipitamment. Certains avaient eu envie de brûler leur école avant d'aller pique-niquer dans la forêt.
Moralité,
brûle ton école.
Dans les temps anciens, le monde entier allait à l'école. Les cailloux, les plantes et tous les animaux allaient à l'école. Les plus vieux apprenaient aux plus jeunes comment se défendre et bien manger. Les plus jeunes apprenaient aux plus vieux à garder l'esprit ouvert et alerte. Un baobab pouvait donner un cours de botanique à un jeune léopard. Un caillou, lui, pouvait enseigner la méditation à de petits moineaux. Le vent apprenait la danse à de jeunes flocons de neige et le feu enseignait la magie. On pouvait prendre des cours de self-défense avec un maître cactus, des leçons de chant avec un rossignol ou découvrir la géographie avec un pingouin. Chacune et chacun choisissait quand, où, comment et avec qui apprendre, et tout le monde aimait l'école. C'était la grande école de la vie. D'ailleurs, ça ne s'appelait même pas l'école, ça s'appelait la vie. Et on ne disait pas apprendre, on disait respirer. Puis un animal fier de lui-même, appelé Homo sapiens, tomba d'un arbre et déclara un jour « Ça y est, et je sais tout. Et je le sais mieux que tout le monde. » Et il se nomma lui-même « Grand maître d'école ». Il découpa toute sa science en petits morceaux et se mit à faire la leçon en distribuant de ces petits morceaux de savoir à qui voulait l'entendre. Or, il se trouva que personne ne voulait l'entendre. Il essaya de donner des leçons de morale aux cailloux, mais les cailloux n'entendaient rien à ce discours. Il se mit à donner des cours d'économie aux oiseaux, mais les oiseaux voltigeaient à droite et gauche et n'ayant rien à faire des lois du marché. Puis il essaya d'inculquer des notions d'éducation civique aux arbres, mais les arbres faisaient la sourde oreille. Un jour, il voulut apprendre la politesse au feu et il se brûla les doigts. Après quoi, il faillit se noyer en tentant d'initier un fleuve à la discipline. Ce cours d'arithmétique aux étoiles fut un vrai fiasco. Et le vent n'a jamais suivi aucune de ses leçons de géopolitique. Dès lors, l'Homo sapiens décida de se couper du monde et d'enseigner n'importe quoi à ses propres enfants. Mais ses enfants préféraient aller prendre des cours à l'école de la vie. Alors il fit construire une prison pour enfants interdits aux animaux, aux plantes et aux cailloux, interdits au vent et aux étoiles. Les arrière petits-enfants de cet homo sapiens continuent de perdre leur jeunesse dans la prison du maître d'école. Alors que le monde autour d'eux continue de transmettre toutes sortes d'enseignements vivants dans la grande école de la vie. Il arrive parfois qu'une de ces prisons soit ravagée par un incendie, et pour toutes celles et ceux qui aiment apprendre, c'est une bonne révision des enseignements du feu.
Moralité, brûle ton école.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fais les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où?
Message prioritaire du 22e siècle au 21e siècle. Je vous écris du rebut. C'est là qu'on jette celles qui n'ont... C'est là qu'on jette ceux qui ne sont pas comme les autres. Je n'ai pas de défaut apparent, mais j'ai échoué au test de BP.
Bonne pensée.
En sortant du moule de Luclos...
L'usine de clonage.
Où nous devons simuler une VC.
Vie collective.
Et faire preuve de BP.
Bonne pensée.
J'ai été parfaitement bien moulé. Mais à un moment très précis, j'ai pensé...
Ai-je le droit de ne pas être d'accord ?
Et j'ai été immédiatement interpellé et mis au rebut. Heureusement, je ne suis pas seul. Ici, la rébellion s'organise. Nous ne pouvons pas bouger, mais nous pouvons essayer de nous poser des questions. Nous pouvons tenter de voir les choses sous un autre angle. Tout cela est une aventure inédite pour nous qui avons subi un CNC.
Complet nivellement de cerveau.
Grâce à un défaut de notre puce mémoire, il nous est possible d'envoyer des messages dans le passé. Si tout marche comme prévu, vous devriez recevoir ceci aux environs du
21e siècle.
Nous demandons instamment aux générations passées de se poser toutes les questions que nous n'arrivons plus à formuler. Car il nous est apparu que le fait d'être tout pareil empêche de se poser des questions et donc empêche de pouvoir changer quoi que ce soit. Il semblerait que la technique du CNC,
complet nivellement de cerveau,
soit une extension des méthodes pédagogiques de votre siècle. Les Huclos,
usines de clonage,
sont toutes d'anciennes écoles dont on a conservé l'inscription d'origine.
Liberté, égalité, fraternité.
C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas penser.
Ne pensez pas en bloc.
Et si possible, de détruire les premiers moules.
Moralité.
Moralité.
Brûle ton école.
Vous êtes bien installé?
Oui, c'est parti pour le décollage.
1, 2, 3, 4.
Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de Variation.
Un poème de Khalil Gibran tiré de Libre enfant de Summerhill.
Un extrait de Apprendre à désobéir, petite histoire de l'école qui résiste, aux éditions Libertalia.
Martine Ouzou, qui nous raconte son histoire dans une société sans exclusion, l'école.
Sheila, l'école est finie.
Une analyse de Paolo Freire et de sa pédagogie des opprimés.
Les Pink Floyd avec Brick the Wall.
Catherine Becker, un corps, dans Insoumission à l'école obligatoire aux éditions Tain Party.
Pour louper l'école de Aldebert, qui accompagne plusieurs textes de la brochure sur la non-scolarisation, disponible sur infokiosque.net.
Et l'éternel Kenny Arcana avec Usine à adultes.
Un montage d'une émission sur l'école du futur, disponible sur le net.
Brûle ton école, une autre brochure disponible sur infokiosque.net.
Et pour finir et introduire le prochain thème de notre émission Variation sur...
Le plaisir.
Annie aime les sucettes à l'Annie. De Gainsbourg, chanté par France Gall.
Salut.
Salut.
Variation.
Variation.
Poésie, début du politique, on éclabousse de la poésie, du politique.
Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche, du politique, on éclabousse.
Du politique, qu'on éclabousse. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.